Le bâtiment fait 185 mètres de long, 11 mètres de large, 15 niveaux plus sous-sol.
Fréquence Paris Pluriel 106.3 en direct de la Courneuve de 11h à 13h30 aux 4000 logements en Broye-Renoir.
Moi j'ai l'impression qu'il ne va pas tomber parce que...
Et vous allez le voir tomber par tranche, toujours pareil, sous-sol, rez-de-chaussée, 6e, 10e, et vous allez voir le bâtiment partir côté sud.
La plupart des gens qui sont partis de Renoir, ils ont du regret.
Puis je sais pas, le bâtiment, on dirait qu'il pleut.
Une émission présentée par Bernard Loche, réalisée par Fréquence Éphémère.
Moi j'ai l'impression que ce bâtiment, il ne veut pas tomber.
Il va tomber environ en 28 secondes.
Puis je sais pas, le bâtiment, on dirait qu'il pleut.
La Courneuve, aux 4000 logements, après Debussy, on Broye-Renoir.
Tu sais, ce qu'ils ont fait, c'était une grande zone ghetto pour les gens qui avaient le moins de moyens possible.
Pratiquement aucune vibration sismique au sol.
Je ne voulais pas te quitter, au Renoir, tu vas mourir. Je t'aime, Angela.
Et vous allez le voir tomber par tranche, toujours pareil. Sous-sol, rez-de-chaussée, 6e, 10e. Et vous allez voir le bâtiment partir côté sud, et comme ça pratiquement toutes les demi-secondes sur 28 secondes.
Moi le côté nostalgique, qui casse le bâtiment, j'en ai rien à foutre, au contraire, je trouve que c'est très bien.
Tant mieux qu'il explose ce bâtiment, et qu'il ne revienne jamais, parce que c'est horrible.
C'est un projet qui est très lié à la politique de la ville, qui se cherche depuis plus de 20 ans maintenant, parce qu'elle s'est trouvée, je pense pas.
Nous allons excentrer le bâtiment côté ouest, pour éviter qu'ils ne viennent trop tutoyer le merlon de terre de protection que nous avons mis sur le centre commercial.
Je sais pas, le bâtiment, on dirait qu'il pleut.
Mais bon, quand on est arrivé là, quand même, toi, tu ouvras tes fenêtres et tu voyais, jusqu'à l'horizon, très loin, quoi.
Il va tomber environ en 28 secondes.
En plus, plein ouest, avec les couchers de soleil, et le regard qui se portait jusqu'à un horizon qui était...
C'est un art, parce que quand on voit un bâtiment de cette masse tomber aussi lentement, je considère que c'est un art doublé de technique.
Je crois que l'urbanisme est une chose, c'est un urbanisme débile.
C'est comme si c'était un ami qui part comme ça. C'était comme si c'était important pour nous.
Pratiquement aucune vibration sismique au sol.
Forcément, c'était plus gâte, parce que c'était neuf.
Moi, j'ai l'impression que ce bâtiment, il ne veut pas tomber.
Il va tomber environ en 28 secondes.
La plupart des gens qui sont partis de Renoir, ils ont du regret.
Le bâtiment fait 185 mètres de long, 11 mètres de large, 15 niveaux, plus sous-sol. Il va tomber environ en 28 secondes.
Ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de poussière.
Casser la barre Renoir, je te dirais peut-être oui, mais bon.
Je ne dirais pas tout pour préserver un certain secret technologique que mes concurrents voudraient bien connaître.
Bienvenue sur 106.3 pour cette émission spéciale autour de la démolition de la barre Renoir. Nous sommes en direct de la Courneuve, au centre médico-social qui accueille aujourd'hui cette émission de radio. À 13h, dans un peu moins de 2h, c'est un morceau de la cité des 4000, un morceau de la ville donc qui va tomber avec l'implosion de Renoir. C'est aussi un morceau de la vie de centaines d'hommes et de femmes qui ont habité, qui ont fait vivre ce lieu. Nous en parlerons. 362 logements, c'est une mosaïque d'histoire, de mémoire. C'est bien sûr des moments de bonheur, des drames, des moments de solidarité, des moments de partage, des moments de convivialité. Nous allons évoquer tout ça. La destruction d'un immeuble, c'est aussi et surtout un moment privilégié où on réfléchit à l'avenir. Vous avez vu partout des affiches, c'est aujourd'hui sur la barre Renoir, la Courneuve s'invente un autre avenir. Donc on réfléchit à ce que sera la Courneuve demain, d'autant qu'au-delà de la ville, c'est sans doute l'un des bâtiments les plus emblématiques de ce qu'on a construit dans les années 60 qui va tomber tout à l'heure. Alors c'est tout ça qu'on va parler pendant ces 2h30 que nous allons vivre ensemble jusqu'à 13h30. Nous ne nous arrêterons pas au moment de l'implosion de la barre, mais nous continuerons après avec des documents, des témoignages, avec nos reporters qui sont en direct dans la Courneuve pour vous faire vivre l'événement, et puis des invités que je recevrai ici. Je vous en cite quelques-uns. L'architecte Paul Chemetov, qui travaille sur l'avenir des 4000. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place de Renoir? Il viendra nous en parler. L'accordéoniste et compositeur Marc Perron, c'est un enfant de la Courneuve. Nous l'entendrons tout à l'heure. Nous aurons aussi avec nous le réalisateur Jean-Patrick Lebel. Il avait réalisé, certains l'ont sans doute vu, un film en 1986, il y a 14 ans, au moment de la destruction d'un autre immeuble, de Debussy, ici aux 4000. Et puis nous accueillerons aussi quelques-uns de celles et de ceux qui ont préparé, accompagné toute cette opération. Laurence Lefebvre, qui a travaillé sur le relogement avec le Pactarim 93. Sonia Lemloum, qui est une des responsables du grand projet urbain, avec elle nous parlerons aussi de l'avenir, bien évidemment. François Nivet, qui est le président de l'office public HLM de la ville. Bernard Barre, qui est architecte urbaniste de la ville. Bref, nous allons examiner l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui et puis évoquer aussi toute la mémoire, toutes les histoires qui sont autour de cette démolition et de l'histoire de cette barre des 4000. Et puis, après 13h, après l'implosion, nous accueillerons ici dans ce studio le maire Gilles Poux et le ministre de la ville Claude Barthelone. Je vous le disais, nous allons essayer de vous faire vivre en direct cet événement. Nous avons des reporters dans la ville. Ce matin, dès 7h, il y a eu les premières évacuations, parce que vous le savez, il y a un périmètre de sécurité important afin d'éviter tout risque. Et il y a une centaine de Courneuviennes et de Courneuviens qui ont dû être évacués. Je vous propose tout de suite d'essayer de rejoindre nos deux reporters qui sont à l'intérieur de ce périmètre de sécurité pour essayer de nous faire vivre à la fois l'ambiance et puis pour recueillir quelques-uns des témoignages sur la façon dont tout se met en place. Vous l'imaginez, démolir une barre de 15 étages, c'est pas une petite affaire. C'est la compagnie française de démolition qui a été chargée de préparer et d'exécuter cette implosion. Écoutez le responsable de cette opération, qui est le patron de la CFD, de la compagnie française de démolition, Denis Guetta.
Le bâtiment fait 185 mètres de long, 11 mètres de large, 15 niveaux, plus sous-sol. Le bâtiment est miné au sous-sol, au rez-de-chaussée, au 6e et au 10e. Par rapport à Debussy, nous avons aujourd'hui des détonateurs qui nous permettent d'amener le bâtiment beaucoup plus lentement que nous n'avons encore amené Debussy. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il se trouve à 12 mètres des bâtiments conservés, à savoir le centre commercial et le centre culturel. Donc il faut le préparer de façon très particulière pour ne pas engendrer de nuisances sur la mitoyenneté.
Donc il va tomber moins vite que par exemple ce qu'on a vu à Saint-Étienne ?
Ah, beaucoup moins vite. Saint-Étienne, c'est vraiment un non-sens. Il va tomber environ en 28 secondes. Pratiquement aucune vibration sismique au sol. Alors l'immeuble va partir du côté sud et vous allez le voir tomber par tranche. Chaque voile est minée, toujours pareil, sous-sol, rez-de-chaussée, 6e, 10e. Et vous allez voir le bâtiment partir côté sud et comme ça pratiquement toutes les demi-secondes sur 28 secondes. Et légèrement en biais, nous allons excentrer le bâtiment côté ouest pour éviter qu'il ne vienne trop tutoyer le merlon de terre de protection que nous avons mis sur le centre commercial. C'est un art parce que quand on voit un bâtiment de cette masse tomber aussi lentement, je considère que c'est un art doublé de technique. Je ne dirai pas tout pour préserver un certain secret technologique que mes concurrents voudraient bien connaître.
Tutoyer le merlan de terre, c'est joli comme expression, hein. Je pense que vous ne connaissiez pas. Il y a quand même 2000 charges d'explosifs qui ont été placées dans Renoir et qui feront imploser la barre tout à l'heure à 13h. Guy Dardel, vous êtes sur place à l'intérieur du périmètre de sécurité. Quelle est l'ambiance actuellement ?
Bien, pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde. Il y a quelques centaines de personnes déjà qui se sont massées devant la tour et derrière la tour, puisqu'il y a plusieurs places où les gens peuvent se masser, disons, pour voir l'implosion de la tour. J'ai avec moi Muguette Jacquin, qui est députée de la Courneuve, qui va peut-être nous dire un mot sur son sentiment, puisqu'elle connaît bien la ville, un peu le sentiment qui règne et ce qu'elle a ressenti des émotions qu'il y a chez les gens qui sont là ce matin.
On écoute Muguette Jacquin.
Ben oui, nous avons un moment d'émotion, mais en même temps, nous avons aussi beaucoup d'espoir de reconstruire avec la population de ce quartier un nouveau quartier. Il faudra pas simplement par l'habitat, mais donner à ces familles la possibilité de vivre, c'est-à-dire des meilleurs salaires, du travail, une formation pour les jeunes. Cela va nécessiter d'énormes moyens, que ce soit dans le domaine de la formation, de l'emploi, du logement, reconstruire une partie de la ville pour la ville. Nous le ferons avec l'ensemble de nos populations. C'est un grand moment d'enthousiasme et je partage à la fois l'émotion mais l'enthousiasme qu'on va s'y mettre.
Merci Madame la députée, c'est un moment que nous allons vivre ensemble. On retrouvera Guy Dardel et Julie Védy tout au long de cette matinée. Je vous rappelle qu'une émission spéciale sur 106.3, la fréquence Paris Pluriel, qui nous héberge aujourd'hui en direct de la Courneuve pour vivre jusqu'à 13h30, non seulement l'implosion de la barre Renoir, mais pour parler, comme nous venons de l'évoquer à l'instant, de tous les problèmes qui sont posés quant à l'avenir et puis pour revenir sur des années, plus de 30 ans de mémoire et d'histoire de ce quartier. Avec nous comme première invitée dans ce studio, Jeannette Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère municipale et vice-présidente de l'office public HLM de la ville. Donc oui. Vous êtes vraiment par ces deux fonctions, si je puis dire, au cœur de cette opération. Et puis nous avons également deux jeunes Courneviens, Hadji et Aminata, qui sont tous les deux étudiants en première année de médecine au CHU Bobigny et qui vont nous accompagner aussi parce que quelque part ils représentent, eux, on l'évoquait à l'instant, l'avenir de la Courneuve et l'avenir de la ville. Et donc ils seront avec nous une grande partie de la matinée pour à la fois poser des questions, réagir, nous dire ce qu'ils pensent par rapport à l'ensemble des thèmes que nous allons aborder. Mais je reviens vers vous, Jeannette Tessier. C'est pas une mince affaire, on l'a dit tout à l'heure, que de démolir un immeuble de 362 logements, et je ne parle pas simplement des aspects techniques, bien évidemment. Comment a été prise la décision de détruire la barre noire et pourquoi ?
Elle a été prise d'abord avant tout avec les habitants, les locataires, à partir de leur vécu, hein, de la façon dont ils vivaient, si les logements étaient grands, et ils ont sans doute été très confortables à 20 ans, ils étaient dans les derniers moments, dans les dernières années, là, ils devenaient insalubres. Plus qu'insalubres même, c'était difficile d'y vivre correctement. Il y avait aussi il faut dire, dans cette barre, il y avait environ 1500 habitants. Donc vivre sur un espace comme ça à 1500 habitants, c'est aussi un problème. Hein. On imagine, c'est presque une petite ville, quoi. Hein. Et donc ça devenait insupportable de vivre dans des conditions comme celle-là. Et donc... au bout d'un moment, la réhabilitation n'était pas la meilleure chose. Il y a eu donc une consultation des gens. Tous les habitants ont été dans des réunions publiques chacun a été consulté, même personnellement, par des rendez-vous personnels dans les familles pour savoir quelles décisions on prenait. Et donc, la grande majorité des gens ont pensé que la meilleure solution était la démolition.
C'est vraiment les gens qui ont décidé ça. Il n'y a pas une décision qu'on a fait accompagner par les gens et qui a été prise
bien
avant.
Bien sûr, il y a eu
une
réflexion de la municipalité, de l'office d'HLM, bien entendu, parce que je crois que quand on a des responsabilités, on
bien
a
sûr.
Aussi la responsabilité de réfléchir à l'avenir du quartier, de la ville et de comment vivent les gens dans le quartier, quoi. Hein. Mais je dirais qu'en dernier ressort, c'est quand même été la consultation, la démarche de la municipalité, de l'office, ça a été vraiment de répondre à l'attente des gens et des habitants du quartier, quoi.
Hein. Vous vous
même
êtes appuyé
si c'est
sur...
un peu douloureux, il y a des moments, quoi. Mais
on le verra tout au long de cette matinée.
Oui, bien sûr.
Il y a tellement de souvenirs
bien sûr. Oui.
Vous vous êtes appuyé sur des habitants relais. Ça,
oui,
c'était quoi, des habitants
oui.
relais? Ça fonctionnait
Alors,
comment
justement, pour être... à l'écoute des personnes qui habitent le quartier. Il a été donc formé un groupe d'habitants relais, c'est comme ça, on n'a pas trouvé d'autres noms, mais en fait de gens qui habitent le quartier, qui ont des relations par leur statut, soit associatif ou même personnellement, parce qu'ils connaissent bien la cité, parce qu'ils sont sous-commerçants ou parents d'élèves ou tout simplement habitants. Ils connaissent beaucoup de monde. Donc, très régulièrement, ce groupe se réunit toujours d'ailleurs. Hein, c'était pour la barre noire, mais plus généralement pour le quartier. Et donc, on les informait effectivement de l'avancement et des consultations, des problèmes qu'on pouvait rencontrer d'ailleurs aussi. Hein. Et en échange, ils leur transmettaient aux autres habitants et nous donnaient aussi des réflexions que quelquefois ils avaient plus ou autrement que nous. Et pour qu'on tienne vraiment compte de tout ça dans l'évolution du dossier de destruction et de relogement surtout. Hein. Voilà. Donc l'idée, la démarche de la municipalité et de l'office, c'est surtout répondre aussi à la volonté de participer aux gens. C'est, l'idée, c'était de faire beaucoup participer les habitants du quartier à l'avenir de leur quartier et à leur avenir, quoi. Voilà.
On aura l'occasion d'évoquer bien évidemment cet avenir, quel sera le visage de non seulement des 4000, mais de la Courneuve demain. Ça sera un des fils conducteurs, si je puis dire, de notre matinée. Un mot simplement, très rapidement, vous parliez d'obstacles, de difficultés que vous aviez rencontrés. C'était de quelle nature, indépendamment du relogement que nous évoquerons tout à l'heure avec Laurence Lefebvre,
oui,
qui a travaillé sur
ce dossier. Oui, parce que c'est pas très simple. Par exemple, il y avait beaucoup de... Mais Laurence le dira aussi. Il y avait beaucoup de grandes famille à Renoir, et c'est vrai que maintenant c'est compliqué, par exemple, d'avoir des grands logements pour loger les gens dans les endroits où ils le souhaitent et tout. Ça a été autre obstacle, c'est que les personnes aussi qui habitent, Madame Jacquin l'a évoqué tout de suite, dans cette barre avaient aussi ont quelquefois des moyens financiers pas très élevés, et ça c'était aussi un obstacle pour trouver d'autres logements, quoi.
Merci. On parlait de toute l'émotion qu'il y a autour d'un quartier, autour d'une ville, autour d'un bâtiment. C'est une émotion qui ne concerne pas seulement ceux qui y habitent depuis longtemps, les plus anciens. On a vu que les enfants des écoles autour étaient aussi porteurs de cette émotion. Je vous propose d'écouter quelques textes que des enfants de l'école Langevin-Vallon, qui est donc juste à côté de Renoir, ont travaillé avec leurs institutrices. Ils ont écrit notamment des poèmes. Écoutez-les.
Et on a fait aussi des dessins. On va les commencer cet après-midi. On dessine le bâtiment si on peut, et on dessine des gens qui sont en train de pleurer, et puis voilà. Parce que j'habitais dedans, ça fait longtemps.
Ça va encore ?
C'est tout.
Ça va faire mal à ceux qui habitaient dedans et qui ont vécu.
C'est comme si c'était un ami et qui part comme ça. Qui part comme ça, c'était comme si c'était important pour nous.
Je trouve que c'est bien qu'il le fasse tomber, parce que là-dedans c'était vraiment sale. Et toutes les bateaulettes étaient cassées, tout ça. Et je trouve que c'est bien.
Hein, j'écris une poésie. Renoir, je suis née chez toi. Tu étais ma vie, mon espoir. Quand j'étais chez toi, je me sentais bien, très bien. Mais depuis que je t'ai quittée, je me sens mal. Je ne voulais pas te quitter. Oh Renoir, tu vas mourir. Je t'aime, Angela.
Aminata Hadji, je disais tout à l'heure que, alors vous êtes un peu plus grand quand même que ceux qu'on va écouter, ils vont me gifler. Vous êtes étudiant en première année de médecine au CHU Bobigny. Et vous à Paris 6, Hadji. Vous faites aussi ces études par l'intermédiaire, je dirais, d'une convention que vous passez avec la ville de La Courneuve. Vous pouvez nous en dire un mot juste rapidement pour situer cette convention. Je crois que vous êtes aidé pour faire ces études, c'est ça ?
Oui.
Aminata.
En fait, ils nous donnent une somme d'argent pour préparer nos années de médecine. Et en échange, on devra donner des cours pendant 2 ans à des élèves, ou soit aider des gens qui iront aussi en médecine.
À des jeunes de La Courneuve,
oui.
Ou à des enfants de La Courneuve ?
Oui, à La Courneuve.
Vous habitez près de Renoir. Est-ce que vous avez, vous, une image forte de ces dernières années autour de cette barre Renoir, Hadji ?
C'est-à-dire qu'une image forte, c'est quand même une partie du paysage des 4000 qui va s'écrouler tout à l'heure. Mais,
vous avez des amis qui vivent ou qui vivaient qui maintenant vivaient, il faut parler à l'imparfait, on est forcé, qui vivaient dans la barre.
Qui vivaient aussi dans la barre, et puis je pense que ça leur a fait quelque chose de partir de là-bas, parce qu'ils sont, pour la plupart, ils sont nés là-bas, et il faut voir avec eux, quoi. C'est plutôt eux qui ont plus d'émotions et qui pourraient plus mieux en parler.
Et comment vous pouvez imaginer ce qu'il y aura dans quelques mois ou dans quelques années à la place de cette barre ? Parce que vous allez rester là, vous continuez à faire vos études et à travailler, vous l'avez dit, au moins pendant 2 ans, puisque c'est l'engagement que vous prenez avec la ville à La Courneuve.
Ben, je ne peux pas vous dire ce qu'il va y avoir à la place de Renoir, parce que je sais pas, c'est pas mon domaine du tout. Mais je crois qu'en ce moment, La Courneuve a fait quelque chose pour avoir quelque chose de positif ici. Donc, à mon avis, ce sera quelque chose de bien. Quand même.
Aminata ?
Oui, moi aussi.
Ouais.
Quelque chose de bien, en fait. En fait, des espaces verts.
Des espaces verts.
Ouais. Parce qu'il y a plein de...
Encore une école aussi.
On rééquilibre un peu entre la pelouse et le béton, peut-être.
Ouais, voilà.
Ça pourrait être une idée. On en parlera tout à l'heure avec Paul Chemetov, qui est l'architecte qui prépare justement l'avenir du quartier. Et nous, on vous lui poserait directement la question sur cet équilibre vert-pas vert. Ça serait intéressant d'avoir sa réponse. Je vous propose d'écouter un autre jeune Courneuvien, qui est un de vos voisins, Kader.
La plupart des gens qui sont partis de Renoir, ils ont du regret. Je m'appelle Kader et je bosse au niveau des relations publiques sur la RN 2000. Ils ont du regret sur cette barre. Et de toutes les nationalités, tu prends blanc, noir, marron, jaune, ce que tu veux, les gens ont du regret. Et les gens te disent même, tu as même des gens aujourd'hui qui ont déménagé, et qui sont dans d'autres quartiers. Et ils ne se sentent pas aussi à l'aise que quand ils étaient à Renoir. Pourtant, Renoir est réputé comme dangereux. Et pourtant, ces propres femmes-là faisaient leurs courses à l'aise. Elles se faisaient porter leurs courses. Elles étaient heureuses. Elles appelaient par la fenêtre. Elles envoyaient leurs petites pièces. Les gens allaient leur acheter le pain. Toutes ces choses-là, on ne les raconte pas. Par contre, pour dire qu'à Renoir, il y a de la deal, il y a ci ou il y a ça, ça, on en parle. Tout ce qui est négatif pour les banlieues, on en parle tout le temps. Mais tout ce qui est positif au niveau entraide entre les gens, on n'en parle plus. Ça veut dire que nous, on a l'impression que bon, les habitants de Renoir, on n'a pas de cœur. Les habitants des 4000 ou des autres quartiers, on n'a pas de cœur. Nous, on ne vit pas. On n'est pas une communauté. On ne s'entraide pas, on s'entretue. Renoir, nous, personnellement, on a vécu une belle histoire. On a bien vécu, on était tranquille. Le gamin, il descendait, il y avait des grands qui jouaient des matchs de foot. Il prenait la petite pièce, il allait leur acheter la bouteille d'eau, il avait sa glace d'offerte. Il était tout heureux. Parfois, bon, il voyait une télévision volée par la fenêtre ou un frigo. Tu vois, bon, mais c'est dans l'ambiance, c'est dans la vie, elle est comme ça. Elle est comme ça. Les gens, après, ils vivent et ils s'en foutent de tout. Des gens, ils voient qu'ils sont délaissés. Moi, je suis là, on est là, on est une équipe de gens, on voit qu'on est délaissé par la municipalité. Ça y est, la municipalité n'en a rien à foutre de nous. Eh ben, nous, on va en avoir rien à foutre de tout le monde. Ça part sur des bases comme ça. Ça part pas autrement. C'est pas virer et changer qu'il faut faire. C'est travailler ces gens justement qui sont peut-être dans l'erreur ou qui font certaines erreurs. Travailler tous ces jeunes, les travailler, essayer de les remettre bien. Et après, ces propres jeunes-là aideront les autres. Tu vois? Tandis qu'aujourd'hui, ces propres jeunes-là, ils vont aider les autres. Mais ils vont les aider à faire quoi? À faire tout le contraire de ce qui est comme principe.
14 secondes.
Tout le contraire de tous les principes. Voilà ce qui va se passer. Donc ça va rien changer. Renoir, moi je te le dis, la cité des 4000, de toute façon elle ne changera pas tant que le travail n'aura pas été fait auprès des jeunes. La base elle est là, c'est de travailler auprès des jeunes.
Jeannette Tessier, travailler auprès des jeunes, demande Kader. On en a eu un exemple avec Aminata et Adjil.
Oui.
Alors,
oui, je crois que ben, je crois que c'est ce qu'essaye de faire la municipalité, qu'elle le fait d'ailleurs, hein, je crois. Moi, au cours des derniers mois et des derniers, dans les rencontres justement avec les gens du quartier, j'ai eu de nombreuses rencontres avec des jeunes, et entre autres des jeunes qui ont formé des associations et avec qui, effectivement, l'écoute a été quelquefois au départ un peu difficile, mais où maintenant on se rencontre, on se parle, on échange. Et on essaye ensemble de construire un nouveau l'avenir, quoi. Hein. Je crois que l'essentiel, c'est ça, quoi.
Merci. On retourne tout de suite un petit peu à côté du périmètre de sécurité. Nous n'avions pas entendu Julie Védi tout à l'heure. Elle s'est baladée, si je puis dire, il y a quelques instants et elle a rencontré notamment quelques-uns des commerçants qui sont à côté, de l'autre côté de l'avenue du Général Leclerc. Et écoutez ce qu'il leur a dit.
Anne-Christine, vous êtes boulangère, donc rue Beaufils, presque en face de la barre Renoir. Vous pouvez un petit peu nous expliquer l'ambiance particulière qu'il y a eu dans le quartier ce matin ?
Donc les gens se sont levés de bonne heure, puisque bon, ils ont été évacués assez tôt. Il y a des gens qui sont quand même un peu affolés, parce qu'ils ne sont pas habitués de sortir de chez eux, et donc ils sont partis un peu dans la famille. On a beaucoup, beaucoup de passages, très sympathiques. Ce sont des CRS, il y a la police municipale. Ils ont bloqué complètement le quartier. Bon, on arrive quand même, nous, à passer par des petites rues, parce que bon, on a une autre boutique, donc on est obligé de livrer quand même. C'est quand même une ambiance très, très particulière. Hein, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas habitué à avoir autant de monde de bonheur comme ça, autant de voir de personnes comme ça, qui sont à droite, à gauche, qui ont bien faim, apparemment.
Je vous remercie beaucoup.
Voilà, merci Julie. Autant de monde et aussi peu de voitures. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé ce matin quand on se promenait ici dans le périmètre de sécurité. Il y avait une ambiance estivale, finalement. Ça ne va pas durer, les voitures vont revenir cet après-midi. 106.3, émission spéciale jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel, en direct de la Courneuve pour la démolition de la barre Renoir. On le disait tout à l'heure, 1200 personnes ont dû être relogées, les habitants de cette barre. Ça a duré 2 ans et demi. Nous accueillons Laurence Lefebvre de Pactarim 93. C'est une des chevilles ouvrières de ce relogement. Laurence Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue jusqu'à nous ce matin. En quelques mots, dites-nous d'abord, Pactarim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi?
C'est une association de 1901 spécialisée sur les quartiers anciens, l'amélioration de l'habitat dans les quartiers anciens. Et puis, les soucis des villes nous ont amenés à réfléchir sur d'autres problématiques, donc les copropriétés dégradées, établir des résidences sociales, et puis les problèmes de relogement sur le parc HLM ou également sur des copropriétés comme au Bosquet. Hein, donc on avait déjà, avant d'agir sur la Courneuve, on était intervenu pour le relogement d'une barre à Montfermeil, hein, au Bosquet. Et puis une année avant qu'on fasse appel à nous, on avait relogé les habitants d'une barre qui a été démolie à Framoisin. Donc en fait, c'est ce qui a amené la ville de la Courneuve à nous solliciter sur cette opération et à nous confier une mission de relogement.
Alors c'est vous qui avez piloté complètement le relogement, qui avez eu en charge le relogement de 1200 personnes, c'est énorme,
oui.
Ça.
Oui, c'était assez colossal.
Et comment on fait ça? Comment on opère un relogement de cette sorte?
Alors avant tout avec les personnes, avec les habitants. Hein, donc c'était dans un premier temps des enquêtes au domicile de chaque famille pour recenser leurs besoins en logement, leurs ressources, leur composition familiale, leur situation professionnelle, et bien cerner leurs besoins et leurs souhaits en matière de relogement. Donc là, ces enquêtes ont duré plus de 4 mois, de janvier à avril 1997, et les relogements ont réellement démarré en juin 1997.
Et là, ensuite, ça s'est passé comment? Vous avez aussi accompagné les habitants tout au long de leur déménagement, de leur installation, voilà. Dans les...
Tout à fait. Locaux. Donc en fait, il y a eu des réunions de cage d'escalier par cage d'escalier pour démarrer l'enquête et informer les locataires de la façon dont ça allait se passer. Et ensuite, on a continué ces réunions régulières avec les habitants, donc cage d'escalier par cage d'escalier, environ tous les 3-4 mois. Pour faire le point avec eux. Et ce n'était pas des réunions où il y avait 5-6 personnes. Non, non, à chaque fois, les locataires se mobilisaient et étaient très participatifs. Et il y avait facilement 40 à 50 personnes à chaque réunion, donc à chaque cage d'escalier. Ensuite, il y avait le relais sur la permanence, où il y avait des permanences au local du GPU 2 fois par semaine. Et là, c'est pareil, je recevais en général 25 à 30 personnes par permanence pour faire le point sur leurs dossiers, sur des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, sur des changements professionnels, que ce soit perte d'emploi ou au contraire qu'une famille ait retrouvé un emploi, sur des souhaits en matière de localisation du relogement qui pouvait évoluer aussi, ou la taille du relogement. On a travaillé aussi parce qu'il y avait pas mal de grandes familles, il y avait de nombreux F6 sur Renoir. Donc on a travaillé aussi sur la décohabitation. Et il y a des familles qui hébergeaient...
La décohabitation, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui en rêvent en ce moment de la décohabitation. Oui.
Donc là, non, c'était la décohabitation des enfants, parce que parfois il y avait des majeurs et très majeurs, hein, 30, 40 ans, qui vivaient encore chez papa-maman. Donc on a essayé de trouver des solutions pour ces enfants, pour qu'ils aient leur propre autonomie, accès à un logement autonome. Hein, parce que parfois c'était avec éventuellement la femme et les enfants. Donc on a essayé tant que faire se pouvait de reloger les enfants, ce qui permettait de trouver un logement un peu plus petit pour les parents, ce qui est beaucoup plus facile que de trouver un F6.
Et ce qu'il faut préciser, je crois, c'est que l'immense majorité des habitants de Renoir ont souhaité rester sur la Courneuve.
Tout à fait.
Vous leur aviez proposé, c'était possible d'aller, de quitter la ville.
Ah, c'était ouvert.
Oui.
Oui, les questions lors de l'enquête, bon, on y allait un petit peu comme ça, hein, sans a priori. Donc on leur a posé la question, où souhaitez-vous être relogé? Et majoritairement, à 90%, les gens souhaitaient rester sur la Courneuve. Après, c'était juste, je vais aller sur Villon, sur Beaufils ou sur, je sais pas, Verlaine ou Saint-Just. Mais c'était la Courneuve. Pour eux, non, c'était pas sortir de la Courneuve, c'était pas Paris ou Marseille ou Lyon. Non, c'est quand on vit depuis 30 ans ou quand on est né à la Courneuve, qu'on a les copains, qu'on a la famille... sur la Courneuve, c'est logique. Enfin, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs et de se retrouver tout seul sur une commune où on ne connaît personne.
C'est votre avis aussi, Aminata et Adjid? Si vous pouviez aller habiter ailleurs qu'à la Courneuve aujourd'hui, vous le feriez, Adjid?
Aujourd'hui, je crois que non, parce que j'ai d'abord beaucoup de choses ici. Autant d'abord finir ce que j'ai à faire ici. Et puis peut-être que On retournera au soleil plus tard.
Bah regardez le soleil, vous l'avez aujourd'hui. Il était avec nous aussi pour accompagner la démolition de la barre Renoir. Aminata, je vous voyais hocher la tête. Vous aussi, pour l'instant, votre avenir, c'est la Courneuve. Laurence Lefebvre, je voudrais vous faire écouter un témoignage qui montre à la fois les problèmes que vous avez dû rencontrer sur le logement et que ce relogement n'a pas été toujours un chemin bordé de roses. Écoutez l'exemple de Catherine, qui est mère de 7 enfants et qui fait partie justement de ceux qui ont des difficultés pour payer leur loyer.
Bon, j'avais un gros crédit parce que bon, j'étais toute seule, je travaillais pas, je cherchais du boulot mais je trouvais pas. Je suis dans l'appartement là de l'OPHLM, mais c'est vrai, c'est provisoire parce que eux normalement et enfin c'est sa foi de tout, mais ils ont refusé de me reloger. L'OPHLM a refusé et c'est la société de Laurence Lefebvre, le Pacatrim, c'est eux qui ont décidé de me reloger vu la dette que j'avais et tout. Qui fait que bon ben j'avais pas le choix quoi. C'était ça ou peut-être quoi, je sais pas moi, me retrouver peut-être à me reloger toute seule. Donc il fallait accepter, j'avais pas beaucoup de solutions de toutes les manières.
Laurence Lefebvre, c'est la spécificité, on dirait, du Pactarim, c'est-à-dire de s'adresser aussi à des populations qui peuvent être à des moments en grande difficulté sociale ou financière.
Tout à fait, oui. Parce que notre objet c'est de travailler plus particulièrement sur les personnes les plus démunies, trouver des solutions de logement pour ces familles, puisqu'on produit des logements, donc notamment sur la Courneuve et pour l'opération Renoir, on va construire des logements neufs, on a réhabilité des immeubles et on va normalement, ça devrait voir le jour fin d'année, début 2001, mais c'est plus spécifiquement pour ce qu'on appelle les plus démunis, parce qu'on obtient des financements spécifiques et on a des travailleurs sociaux au Pactarim 93. Donc j'ai des collègues qui m'ont aidé à suivre certaines familles, disons, sensibles de Renoir pour pouvoir aboutir à un relogement, à trouver une solution et que non seulement on les sorte de leur logement, ce qui était notre mission, trouver un autre logement, mais que surtout on trouve une solution pour la famille, définitive pour les remettre sur les rails, pour qu'ils reprennent éventuellement le paiement d'un loyer qu'ils avaient oublié depuis un certain temps, et puis voir tous les problèmes, comme pour Catherine, de gestion d'un budget, et leur permettre donc de partir sur des bonnes rails, d'être stabilisés dans le logement, et voilà, d'avoir un logement autonome, et de plus connaître après des problèmes d'impayés, et éventuellement de craindre une expulsion, voilà, se retrouver dehors.
Autre témoignage que je vous propose d'écouter, celui d'un jeune graphiste de la Courneuve, Farid.
Moi je m'appelle Mayedine Farid, hein. Bon, ça fait 31 ans que je suis à la Courneuve, donc j'habitais au départ à Debussy qui a été écroulé justement. Donc j'ai fait un peu le tour du quartier et notamment le dernier bâtiment c'était Renoir, donc je vais revoir encore détruire, donc ça va être deux fois des larmes à l'œil quoi. Moi j'habite Saint-Just qui est quand même un quartier qui est justement sorti des décombres de Debussy. Moi, j'étais un peu déçu parce qu'en fait, je sens que ça va être comme ça, que le quartier ne va pas revenir aux gens des 4000. Parce qu'ils n'ont pas les finances pour aller dans un appartement très cher. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire un sondage, hein, de voir les gens qui habitent dans les nouvelles cités. Et ce n'est pas des gens de Renoir ou de Debussy.
Ils ont été relogés où, les gens de Renoir ?
Dans les autres poubelles, hein. dans les autres noirs, c'est-à-dire dans Ravel, le Mail, qui sont de toute façon des Renoirs camouflés. Parce qu'une fois que les rénovations, qui sont des rénovations de mauvaise qualité, vont tomber, comme Balzac, notamment, qui a été rénové deux fois de suite, vous avez vu, je ne sais pas si les gens sont passés devant, mais c'est dans un état lamentable, on a l'impression de revoir Renoir. Donc on ne change pas les mentalités des gens, puisque c'est les gens qui cassent et qui salissent, c'est toujours les mêmes. Résultat, le bâtiment, de toute façon, c'est rénové dégueulasse. Il aurait mieux fait de détruire que de rénover. Ça ne sert à rien de rénover, puisque ça coûte plus cher que de reconstruire.
Voilà, des termes un peu durs pour poser le problème, non seulement d'aujourd'hui, mais aussi de l'avenir. On parlera de l'avenir, j'espère, dans quelques instants, avec l'architecte Paul Chemetov. Je l'invite à rejoindre le studio s'il est arrivé sur le périmètre de sécurité. En attendant, et comme tout est courneuvien ce matin sur 106.3, même la musique, on prend le temps d'écouter La Brigade avec une spéciale dédicace aux habitants de Renoir.
Ok, bon, ben moi c'est Davis, l'agent X de La Brigade, dédicace bon, ben, aux 4000 puisqu'on parle des deux, la Courneuve, Aubervilliers, le 9-3 et toutes les autres régions. Et puis bon, dédicace au 106-3 RN2000 et puis bon ben... Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, il faut aller acheter l'album quoi, ok. Le testament dans les bacs.
Il faut que je voie ma mère, mais le fruit
de mon amour, mon fils. Avant que son image s'efface de ma mémoire, avant d'être vieux comme un truc pour mes morts, et qu'on dise à ma femme, madame, ce soir un homme est mort. Quand je vois mes murs, je sais ce qu'ils veulent m'offrir. Une mort lente et douce pour moi, ou c'est ce qu'ils veulent, mon frère.
Je veux pas rester ici,
mais ça ils le savent. Et même s'ils me suivent partout, ils font ce que je me
suis. C'est ma veillée d'armes, c'est du cyclique, John le terrible. Et comme d'autres l'ont fait avant, un autre fond, on va remplir la Bible. Hanté par les couloirs, miradors et tunnels, je fais de mon évasion une profession de foi, demande à l'éternel. Mon dos s'est cloué, délit face est grillé. Refuge du parfait brigadier, j'entame ma énième année. Aucune libération, que du bluff. Après une descente aux enfers qui pourrait voir l'homme neuf. Mon esprit de la tourmente, les frères avec qui j'avance. Tous les quartiers défavorisés, tous ceux que l'on représente. La brigade, les esprits enchaînés, et tous ces innocents prisonniers.
Si je meurs,
tous ces innocents prisonniers.
Libéré par la brigade avec cette spéciale dédicace aujourd'hui pour les habitants de Renoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 sur 106.3, hébergé par Fréquence Paris Pluriel pour vivre en direct non seulement l'implosion de la barre Renoir à 13h dans un peu plus d'une heure et quart, mais pour évoquer à la fois la mémoire de ce quartier et bien évidemment son avenir. On retourne tout de suite sur le terrain. Nous sommes au centre médico-social et c'est le centre PMI qui est juste à côté. Il y a aussi eu beaucoup de travail aujourd'hui et dans les jours qui ont précédé pour préparer ce périmètre et accueillir ou évacuer un certain nombre de personnes.
Alors Martine, auxiliaire de puériculture au centre de PMI Georges Braque. Nous avons ouvert ce matin à 7h la PMI pour recevoir les familles, les mamans et les enfants de moins de 2 ans. Ce matin, la première famille est arrivée, il devait être 8h15. Un peu désemparée quand même, on peut dire, parce que la maman ne savait pas trop où elle allait. On lui a expliqué qu'elle restait chez nous, qu'elle était hébergée jusqu'à 14h, 14h30. On a reçu une maman enceinte et un enfant, une grand-mère. Est arrivée une famille de François Villan avec un bébé en bas âge. Et là, on attend encore trois mamans et une femme enceinte. Mais ça s'organise bien, quoi, ça va. Généralement, ils sont assez calmes, les bébés sont endormis, on a mis des matelas, il y a des lits, il y a des transats. Donc bon, je pense qu'on va assurer.
Oui, ils vont assurer, bien sûr. Ils ont commencé à assurer. Puis ceux qui assurent aussi, vous les avez forcément remarqués dans le périmètre de sécurité et autour, c'est tous ceux qui travaillent pour la Croix-Rouge et qui sont là aujourd'hui pour évidemment parer à toute éventualité. Écoutez l'un des responsables de la Croix-Rouge qui explique la façon dont ils sont présents aujourd'hui à la Courneuve et dont ils vont travailler.
Nous sommes donc au PC Croix-Rouge situé place Georges Braque. Philippe Lassé, vous êtes donc le responsable pour la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous faites depuis ce matin avec vos équipes ?
Oui, donc depuis 7h ce matin, quatre équipes Croix-Rouge, donc quatre ambulances, ont été mises à disposition pour évacuer les gens des appartements, des gens qui étaient donc soit avec des problèmes de santé ou des gens qui étaient à mobilité réduite et qu'il fallait aider. Pour les évacuer du bâtiment. Alors au total, la Croix-Rouge a engagé 4 équipes de 5 personnes, plus 3 personnes au niveau du commandement.
Le plus gros du travail, c'est quand pour vous ?
Le plus gros du travail, il est maintenant quasiment fini, puisqu'en fait, la totalité des évacuations sont terminées, et donc ça va commencer à se calmer maintenant.
Comment réagit un petit peu la population ?
On n'a pas rencontré de problème particulier, éventuellement des gens qui n'avaient pas très bien compris l'horaire pendant lequel ils devaient être évacués. Donc on est arrivé des fois chez des gens qui n'étaient pas prêts, donc il a fallu revenir les chercher un petit peu plus tard. Mais d'une manière générale, l'information avait été très très bien donnée, donc les gens savaient très bien comment ça allait se passer, où ils allaient, qui les prenait en charge, donc il n'y avait pas de problème. Tout s'est passé comme c'était prévu sur le papier.
Voilà, c'était un avant-goût pour vous mettre en appétit pour goûter la musique de Marc Perron qui va nous rejoindre dans quelques instants. En attendant, toujours sur 106.3 pour cette émission spéciale jusqu'à 13h30 en direct de la Courneuve à l'occasion de la démolition de la barre Renoir, nous allons parler de l'avenir et de ce que sera ce quartier demain puisque Paul Chemetoff, l'architecte qui porte le projet de cet avenir, nous a rejoint pour en parler. Bonjour Paul Chemetoff. Merci d'être avec nous. Alors, on va évidemment parler de l'avenir de Renoir, mais on ne peut pas faire l'économie d'un retour, fut-il rapide, sur le passé. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un architecte pour défendre une conception de l'habitat comme celle qui a prévalu dans les années 60, et notamment ici, au 4000 et à Renoir. Et pourtant, c'est bien des architectes qui ont construit ça.
Je crois qu'il faut revenir en arrière. Aujourd'hui, nous soldons les comptes et les mécomptes des Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, ça a été assez brutal. Ça a été le remplacement des paysans par des ouvriers industriels et ça a été l'arrivée massive des immigrés en France qui ont fait la richesse de la France.
Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas?
Ici on va exploser, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur un bouton et instantanément il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ça va faire fouf, et après le bâtiment, ça fait pas beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de poussière. Le bâtiment s'est démoli lui-même. Et cette partie-là, avec l'explosif, on va la décaler un peu comme ça. Donc, comme les murs vont être inclinés, ça va s'affaisser. Le poids des cinq étages dessus vont descendre et écraser ce qu'il y a en dessous. Et chaque fois que ça va taper en dessous, ça va écraser en dessous. Avec l'inertie, ce qu'il y a au-dessus, ça va s'écraser aussi. Et ça va s'écraser par les deux bouts comme ça sur place.
Et combien il va falloir de temps pour tout dégager? Pour
2 mois.
2 mois au moins.
Pour Debussy, c'est ce qui s'était passé. 2 mois. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, nous, on avait compté que la poussière, elle allait mettre tant de temps à s'évacuer. Et ce jour-là, il y avait un vent terrible. Et en quelques minutes, toute la poussière est partie et on a vu un vide. Et je te jure que c'est vraiment impressionnant parce qu'à la place d'un bâtiment, t'as le vide. Et dans l'école qui est à côté, t'as le soleil qui pénètre pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, tu vois. Ça, c'est impressionnant.
Tu sais, nous, depuis qu'ils ont commencé à percer les fenêtres, on voit le soleil toute l'après-midi. On n'avait jamais vu ça, quoi. Ouais, au centre culturel, on commence à le voir.
Mais ça change la vue.
Puisque les fenêtres sont éclatées des deux côtés, et donc on commence à voir le soleil vers 7-8 heures, tu vois. Et on se dit, mais c'est incroyable la lumière qu'on va avoir après la chute, quoi. Pour le moment, quand même, on tremble tous les jours, oui. Un peu.
Il y a du bruit.
Il y a du bruit, c'est intenable. Et on s'inquiète même, parce qu'on se demande si ça va pas se fissurer, tu vois. Non. Parce qu'on tremble.
Je dirais comme ça, aujourd'hui, l'objectif, c'est déjà des choses sans ascenseur. 4 étages maximum. Pourquoi pas d'ascenseur? Parce que d'avoir ascenseur, c'est char, c'est lieu de délinquance. Quelquefois, il se passe des choses dans l'ascenseur. C'est le tag anonyme sur l'ascenseur. Bon, parce que le tag, c'est pas trop grave, mais il se passe des choses plus graves. Donc, en gros, c'est pas d'ascenseur. Et c'est redonner des bâtiments où les gens arrivent à se connaître, des cages d'escalier qui appartiennent à quelqu'un. Parce que, par exemple, quand on s'imagine qu'à Renoir, dans une cage d'escalier, il y avait plus d'habitants que dans mon village de l'Aveyron, qui fait 1500 hectares. C'est normal qu'il y ait des papiers gras au fond d'escalier, parce que dans mon village, moi, quand j'étais gamin, je jetais les papiers comme tout le monde. Mais comme on était jeté 3 papiers à toute la commune, personne ne les voyait. Là, c'est la barre Renoir, c'est un chef-lieu de canton. Voilà. C'est 300 logements, 4 personnes par logement, ça fait 1200 personnes. Mon chef-lieu de canton dans l'Aveyron ne fait pas 1200 personnes. Et ça, dans une barre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à y vivre, parce qu'à mettre les gens si serrés, c'est compliqué, même quand ils s'entendent bien.
Le bâtiment fait 185 mètres de long, 11 mètres de large. 15 niveaux plus sous-sol, il va tomber environ en 28 secondes.
Donc reconstruire, c'est reconstruire plus petit, plus bas, des cages d'escalier moins anonymes, mélanger le type d'habitat. Ceci dit, à l'époque, c'était une avancée. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale. À l'époque, ça a été visité du monde entier. Pour la technique mise en œuvre, pour la rapidité de construction, pour plein de raisons, pour la qualité des logements.
C'est des beaux logements, 4 000 logements. Ah oui, c'est des logements grands, spacieux, enfin agréable,
traversant, avec le soleil de côté, avec une trame, bon, vraiment de très très beaux logements que privé envirait en termes d'aménagement intérieur. Le problème, c'est quand on empile sur de telles hauteurs, de telles longueurs déjà, et comme juste un peu ce débat, parce qu'il n'y en a pas qu'une, je veux dire que c'est. On a fait 4000 logements en 3 ans, je crois. On a reconstruit, la sous-préfecture de l'Aveyron en 3 ans.
C'est magnifique de dire que les 4000, c'est un chef-lieu de canton de l'Aveyron. Marc Perron, vous qui avez fait le voyage de la Courneuve vers le sud, aller et retour, c'est beau de le dire en plus avec cet accent.
Oui, absolument, ouais. C'est vrai. Chef-lieu de canton, ouais. C'est la capitale de toutes les banlieues, peut-être, comme dirait Jean-Patrick Lebel.
Je ne sais pas si c'est la capitale de toutes les banlieues, mais en tout cas, ça, c'est des comparaisons comme celle de la ville tout à l'heure qui aident à comprendre et à voir vers où il faudrait aller. Un chef-lieu de canton dans l'Aveyron, il y a un centre, il y a des petits commerces, il y a des gens qui se mettent dehors et tout. Avec sans doute un périmètre qui est peut-être un petit peu plus large, mais on peut arriver à reconstituer
absolument,
ça.
Ouais.
Un des enjeux d'ailleurs pour l'avenir de la Courneuve et des 4000, c'est l'activité économique bien sûr, et notamment le commerce, le retour du commerce. Je voudrais vous faire écouter, alors que nous approchons du moment de l'implosion, quelques témoignages, et notamment ce qu'en dit Martine, qui est un des autres personnages de cette cité des 4000. C'est l'animatrice de l'association 4000 Fer, et elle nous parle justement de la nécessité de ce retour du commerce.
Ah, moi, j'y crois beaucoup, parce qu'il faudra fatalement remettre un centre commercial, des services de proximité, sinon on va rester dans des banlieues dortoirs. Une petite boulangerie sympa, le pharmacien un peu moins caché qu'il ne l'est en ce moment. On cherche aussi, j'ai ouï dire qu'un petit point de restauration serait le bienvenu, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le coin. Et c'est vrai que ça aussi, ça amènerait du mouvement. Il y a énormément de gens qui travaillent sur la Courneuve. Ils viendraient manger facilement dans les 4000 s'il y avait quelque chose de sympathique. Et nous, on est une structure d'insertion et on fait du repassage. Voilà, ce sont des femmes qui viennent chez nous et qui apprennent le métier de repasseuse, éventuellement autre chose, la retouche, l'accueil des clients, tout un tas de... C'est un magasin, comme un vrai magasin, une vraie repasserie, et les femmes apprennent à travailler dans cette structure-là, avec évidemment une évolution qui est plus adaptée à leur rythme à elles que dans un commerce traditionnel. Les clients sont des particuliers ou des petites entreprises qui nous donnent leur linge. C'est ouvert à tout le monde. On n'est pas sectaire. Plus on a de clients, plus on est content. Et alors, pour savoir vraiment où on est au pied des 4000 à la Courneuve. Voilà, ça s'appelle aux 4000 fers. C'est quand même un quartier qui est encore très vivant, contrairement à l'apparence qu'il a. Et je crois que la volonté de tout le monde, justement, c'est de reconstruire un peu de mouvement. Et donc, qui dit mouvement, dit commerce. Mais des petits commerces de proximité dépanneraient énormément la population. Tout le monde n'a pas de voiture, tout le monde n'a pas envie d'aller dans un hypermarché complètement déshumanisé. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup aux petits commerces reconstruits dans des banlieues comme les nôtres.
Autre avis sur l'avenir du commerce, très rapidement, et du centre commercial de la Tour, le boucher du centre commercial et l'assistant de la pharmacie.
Métier avec ça, son magasin, ça sera bon pour tout le monde, même pour les clients et pour les commerçants. Il y aura le mouvement ici, j'espère, comme avant. Avant, c'était bon, mais maintenant, il n'y a rien.
Moi, je pense que j'y crois, parce que vu les projets des uns des autres, vu ce que je vois effectivement, parce que j'ai reçu pas mal des documents où il y a des projets pour essayer de motiver, de redynamiser le quartier et surtout, pour que ça marche, il faut que les jeunes poussent, je dirais, les intéresser, les associer dans les projets. Et ce n'est qu'à ce prix-là que ça marchera.
Voilà, et vous entendez pendant ce temps-là les sirènes qui nous annoncent que nous approchons du moment où le bâtiment va imploser. C'est dans quelques minutes maintenant. On rejoint Julie Védy qui est sur place à l'extérieur. Julie ?
Je suis toujours dans le périmètre de sécurité.
Le moment d'en sortir. Hein.
Oui, évidemment. Je suis avec Achour qui a 27 ans et qui a habité plus de 10 ans dans la barre Renoir. Achour, qu'est-ce que ça va vous faire là dans 5 minutes ?
Ça fait bizarre quoi, de voir l'immeuble dans lequel on a habité pendant plus de 10 ans, le voir disparaître comme ça tout d'un coup, ça va faire un vide en fait.
Vous avez des bons souvenirs ?
De bons souvenirs, des bons et des mauvais en fait. Et bon.
5 minutes avant, on se souvient surtout des bons ou des mauvais souvenirs ?
Des bons souvenirs, des bons souvenirs parce que... Je bloque.
Il y a un peu trop d'émotions là, je vais laisser Achour tranquille.
Sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous ? Comment ça se passe, Julie ?
Ah là, ça y est, c'est plein.
Ouais.
J'ai du mal à évaluer, mais on est plusieurs centaines. Les gens se resserrent de plus en plus et tout le monde est prêt, je crois. Les appareils photo, les caméras, tout est prêt.
Vous pouvez vous rapprocher d'autres personnes pour essayer, là, à quelques 3 minutes maintenant de l'implosion, d'avoir leur sentiment, leur réaction, de façon à ce que ceux qui ne sont pas là sur place, sur le périmètre de sécurité, mais qui sont chez eux, en train de nous écouter sur 106.3, puissent partager ce moment avec ceux qui sont autour de vous.
Alors, j'ai également à côté de moi Alain, qui habite à Prézov, c'est-à-dire la barre qui est donc tout à côté de Renoir et qui est prévue aussi à la démolition. Alain, qu'est-ce que vous ressentez ?
Ah, ça me fait bizarre de voir un grand immeuble comme ça tomber. J'en ai déjà vu un
à la Courneuve. Et là, ça va faire le deuxième, ça fait triste un peu.
Ça va faire de...
À bientôt, Présov.
Vous serez content de voir tomber Présov ?
Non, non, parce que j'habite encore dedans, mais... Mais ouais, ouais, si. Je serais content de voir tomber tous les grands immeubles et vivre les petits bâtiments et à bas les banlieues.
Voilà.
À bas les banlieues, c'est quand même un petit peu, c'est un petit peu fort. En tout cas, à bas un type d'urbanisme, peut-être. Je pense que c'est ce que voulait dire votre interlocuteur. Guy Dardel, vous êtes également à l'intérieur du périmètre de sécurité maintenant ?
Allô ?
Oui, on vous entend, vous êtes à l'antenne.
Oui, vous m'entendez ? J'avais rendez-vous là avec Mimouna, qui dirige l'association Africa. Malheureusement, elle était très malade ce matin, donc elle ne peut pas être sur place. Donc, quant aux réactions, il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver ici. Il y a eu, comme vous l'avez entendu, la sirène il y a quelques minutes. Il y a plusieurs centaines de personnes maintenant massées qui regardent la tour. Je vais essayer d'avoir quelques réactions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir autour de moi ? Personne veut réagir. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions. Quelqu'un veut réagir
Pour assister au grand événement quoi, du siècle, je peux dire même. C'est pour la première fois que j'assiste à ça.
Vous êtes un habitant de la Courneuve ?
Exactement, monsieur.
Quel sentiment ça vous inspire ?
Je regrette beaucoup.
Vous regrettez la destruction ?
Normalement.
Pourquoi ?
Ben, il fallait qu'on l'arrange. Hein.
À votre avis, il valait mieux réhabiliter que de raser ?
Exactement.
Voilà, une réaction à chaud.
Merci Guy. Julie, vous êtes toujours au milieu de ceux qui attendent maintenant, dans les quelques secondes qui vont venir, l'implosion de la tour ?
Oui, je suis toujours là, au milieu, mais... De plus en plus, le silence s'installe, les gens attendent et j'ai peut-être éventuellement des gens autour de moi qui veulent réagir, je ne sais pas, d'anciens habitants de Renoir. Vous êtes du quartier, vous, monsieur ?
Oui, je suis de Présov et Renoir va démolir, on va tous pleurer et on va s'en rappeler du 8 juin 2000.
C'est quoi les bons aspects de cette démolition ?
Plus de place et la Courneuve... ça monte un avenir.
Merci.
Julie et Guy, je vous propose peut-être de laisser maintenant, alors je sais que ça ne se fait jamais à la radio ça, mais l'événement le mérite, de laisser le silence s'installer pour respecter à la fois l'émotion et la mémoire qui accompagne ces derniers instants que nous sommes en train de vivre de cette barre et d'attendre quelques secondes pour entendre s'effondrer et la barre Renoir.
Moi, j'ai l'impression que ce bâtiment, il ne veut pas tomber.
Il va tomber environ en 28 secondes.
Puis, je sais pas, on dirait
c'est à l'antenne, c'est ça à l'antenne. Et là, c'est à l'antenne.
Non, t'es journaliste, Julie.
Voilà.
Guy, Julie, vous pouvez reprendre l'antenne pour à la fois nous décrire ce que vous voyez et comment on réagit autour de vous. Julie, on entendra Guy après. Julie.
Oui, je suis là. J'ai une jeune fille qui est à côté de moi qui est assez...
Ça m'a fait un peu un choc quand j'ai entendu exploser. Puis d'un seul coup, je me suis dit, c'est magnifique, il n'est plus là. C'est parti, c'est fini. Il n'y aura plus un de moins déjà. Donc c'est pas mal.
Et vous, madame ? Non, madame est trop émue. Moi-même, je suis... Mademoiselle, vous êtes de la Courneuve ?
Non, pas du tout. Je sais pas, on est architecte, donc c'est toujours impressionnant quand on voit un bâtiment qui tombe comme ça. Surtout après, c'est impressionnant parce que c'est tout vide.
Vous arrivez à vous mettre à la place des habitants qui ont vécu ici ?
Bon, on essaye et ça doit être particulièrement dur. Il y en a, je pense, qui sont très heureux, mais il y en a d'autres, ça va être particulièrement dur parce qu'ils ont vécu là-dedans, ils ont tous leurs souvenirs. Pour les voisins aussi, ça doit être super dur. Mais je pense que ça va aussi, ça va changer peut-être des problèmes de logement, de gens qui ont eu beaucoup de difficultés. Donc,
merci beaucoup.
Guy Dardel.
Je vous entends, donc on va avoir quelques réactions à chaud. J'ai un monsieur qui a l'air assez ému à côté de moi, qui va nous dire ce qu'il a ressenti.
On l'écoute.
Ben, c'est très émouvant, c'est angoissant. Et puis, je suis architecte, c'est toujours très très dur de voir démolir un bâtiment. pour nous, c'est plutôt construire, et c'est comme si un enfant était en train de mourir. C'est véritablement de l'émotion pure.
Voilà, bien évidemment, on a vu, je vais essayer de vous décrire comment ça s'est passé. Le bâtiment s'est écroulé de gauche à droite par portion, c'est-à-dire par cage d'escalier, en fait, dans un bruit relativement assourdissant avec toutes les explosions que je pense que vous avez entendues. Je vais essayer de trouver d'autres réactions. Monsieur, vous voulez dire un mot ? Messieurs, vous voulez dire un mot sur la destruction ? Ah, voilà, quelqu'un, jeune de la Courneuve, je pense.
Ouais, dur à croire, mais c'est pas bon, là. C'était la tour de contrôle. Je pouvais pas. Je peux pas. Mais bon. Ah, c'est ça la vie. Mais c'était la tour de contrôle.
C'est difficile pour vous de voir ça ?
Ah, sincèrement. Franchement, ouais. Grave. On peut pas s'imaginer ça. Renault, là. C'était notre vie, ça, bordel. Mais bon.
Le quartier, maintenant, vous pensez, ça va aller mieux ?
Ouais, peut-être. Qui sait ? Mais. Ça va rien changer, je pense. Hein. C'est pareil, c'est les mêmes jeunes. C'est pas un bâtiment qui faisait qu'on était méchants. Et puis nous sommes pas méchants à la base. C'est les trucs qui font qu'on est méchants.
Les conditions de vie.
Ouais, c'est les conditions.
Une jeune fille qui habitait dans le quartier.
Ouais, j'habitais dans le quartier.
Tu peux dire ce que t'as vu, comment t'as ressenti ce qui s'est passé ?
Ben, d'un côté c'est bien parce que franchement ça avait trop une mauvaise image. Mais ben j'espère que ça ira mieux maintenant.
Mais l'explosion elle-même, ça t'a fait quoi ?
Ah, ça m'a fait un choc. Un bâtiment qui part comme ça, c'est des, je sais pas, c'est des vies qui tombent. Franchement, ça m'a fait mal au cœur.
Voilà, si vous voulez d'autres actions, je peux en avoir encore.
Oui, bien sûr, Guy, parce que c'est vrai que l'émotion est perceptible dans ses réactions. Elle est ici aussi dans le studio, là où nous sommes pour faire cette émission en direct. Je crois que tous les visages que nous voyons à l'extérieur ou à l'intérieur portent l'émotion de ce moment, de la chute de ce bâtiment, surtout après tout ce que nous avons évoqué depuis le début de cette émission spéciale, depuis 11 heures. Donc, si vous avez encore une ou deux personnes autour de vous qui veulent réagir, bien évidemment, elles sont les bienvenues sur 106.3.
J'ai un monsieur africain qui est à côté de moi, peut-être qu'il va se présenter, il va dire ce qu'il ressent de ce qu'il a vu.
Oui, Sibi Sidatu, ancien président de la TMF. J'ai attendu mes camarades de l'association dire un mot, mais apparemment, il doit avoir un petit problème de santé. Ils ne sont pas venus. Mais tout ce que je dis, je sais que c'est dur à voir comme toute chose, mais je suis confiant que tous les gens qui ont quitté ces logements, ils vont être logés, bien mieux relogés qu'avant. Étant connaissant la municipalité de Courneuve, j'ai beaucoup confiance. Et merci.
Voilà, donc des réactions. Il y a beaucoup d'émotions, hein, c'est un peu difficile. Des gens sont perplexes, ils regardent le trou maintenant béant qu'a laissé cette barre. Encore une émotion, un jeune de la cité.
Hein ? Ouais, c'est malheureux, la cité est détruite. Et puis, j'ai des cousins qui habitaient là-dedans, des copains et tout.
Quel effet ça fait quand
ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur qu'une cité qui ait des trucs comme ça. Et puis, voilà, quoi. Qu'on perd. Heureusement qu'il n'y avait pas des gens qui étaient dans la cité, quoi, parce que voilà, quoi. Vous auriez pu exposer, quoi, la cité, c'est malheureux, quoi.
À ton avis, est-ce qu'il faut continuer à détruire les grandes barres comme ça, ou vaut mieux les réhabiliter ou...
Non, vaut mieux les réhabiliter, vaut mieux leur faire des cités comme ça, pas les détruire, parce que c'est malheureux de détruire toutes les cités, et si on détruit toutes les cités, on perd tout, quoi, dans la vie, quoi.
Et l'impression que tu as fait l'explosion qu'il vient d'avoir, c'est assez choquant, quoi.
Ça m'a fait drôle, quoi, un peu, et puis voilà, quoi. Et j'espère qu'ils vont refaire un nouveau bâtiment.
À la place.
Des 4000, quoi.
Okay, je te remercie. Une dernière réaction parce
Une dernière, oui. Oui, tout à fait.
Ouais, la cité, elle est partie. Dommage, hein.
Toi, tu habitais là, dans ce quartier-là ?
Ouais, j'habitais dans le coin, là.
Et alors, tu penses quoi ? Comment t'as ressenti l'explosion ?
Bah, c'est malheureux, hein. J'aurais bien voulu qu'il reste la cité, mais. Bah.
À ton avis, ça ouvre des nouvelles perspectives pour les gens qui vivent là ou...
Ouais.
Bah, je te remercie.
Un dernier mot pour Renoir. À la mémoire de Renoir, c'était ma tristesse, c'est ma joie à la fois. Sincèrement, j'oublierai pas ce bâtiment. Il était fort.
Voilà.
Merci Guy pour et puis merci à tous ceux qui, parce que c'est pas facile, qui ont accepté comme ça de parler tout de suite dans ce moment d'émotion. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville, nous a rejoint dans ce studio pour cette émission que nous vivons en direct depuis 11h ce matin. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on a vu et entendu tout au long de la matinée beaucoup d'émotions. Des interrogations aussi quant à l'avenir, on y reviendra. Et puis aussi, on l'entendait là, beaucoup de dignité. C'est quelque chose qui ne vous surprend pas, j'imagine.
Ça ne me surprend pas et je trouve que c'est normal. Devant un moment comme celui-là, c'est vrai que les sentiments sont toujours ambivalents. On pense aux 30 ans finalement que nous venons de vivre, à la fois pour les habitants qui sont ceux qui ont occupé la cité Renoir pendant ces années. On pense au moment de joie, mais aussi au moment de détresse qu'ont connu les femmes et les hommes, les jeunes dans ce bâtiment et dans ce quartier. Donc c'est aussi ce mélange entre ces deux moments de notre vie, finalement, qui donne naissance à ces réflexions, ces pensées et ce silence. Vous avez entendu le souffle de l'explosion et le silence de celles et ceux qui ont assisté à un tel moment, parce que c'est vrai que chacun y trouve son interprétation.
Alors un jeune le disait, puis d'autres l'ont dit tout au long de cette matinée, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire à un moment que de démolir? Est-ce qu'on peut, on est allé au bout d'une politique de réhabilitation, maintenant il n'y a plus qu'à démolir? Je sais qu'il y a une quinzaine de jours vous étiez à Saint-Étienne où aussi oui. Un grand immeuble a été détruit à Montchavet, dans un quartier comparable finalement j'imagine au 4000 et à la Courneuve. C'est toujours quelque part un échec quand on est obligé de casser quelque chose que les hommes ont construit.
Ce n'est pas un échec. La société humaine veut que l'on avance de progrès en progrès, y compris sur le lieu d'habitation des femmes et des hommes. Ou sinon, on serait tous encore en train de vivre dans des grottes. Il y a eu des évolutions, il y a eu des évolutions et des opérations de reconstruction et de démolition dans la ville, dans les centres-villes, depuis que les hommes et les femmes ont fait la ville. Et je ne voudrais pas que l'on ait aussi cette impression que ces quartiers industriels pensés et bâtis dans l'urgence représentent l'alpha et l'oméga de l'organisation humaine. Ce sont des quartiers qui ont été utiles dans les années 55-60, au lendemain de la guerre, où il a fallu construire du logement pour celles et ceux qui n'avaient pas de toit, pour celles et ceux qui habitaient des bidonvilles, pour celles et ceux qui venaient des zones rurales, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Pour ces pieds noirs qui revenaient sur l'Hexagone, ces logements étaient indispensables dans le cadre de l'apparition de la ville industrielle. On a construit dans l'urgence et on s'est rendu compte que lorsque ces quartiers qui étaient plus prévus pour reconstituer la force de travail que de permettre une vie normale ont été confrontés au chômage, à la drogue, aux difficultés de la société, c'était des quartiers qui fonctionnaient mal. Aujourd'hui, il n'est pas question de démolir tous les bâtiments. Il est question, dans les 20 ans qui viennent, de démolir 3% du parc de logement social. Parce que pour une certaine forme d'urbanisme ou d'architecture, eh bien, c'est une forme et une architecture qui ne correspond plus à l'envie de vivre des habitants. J'ai entendu depuis tout à l'heure des remarques qui étaient de dire « Ah, ce bâtiment... » Vous savez, hier, c'est toujours plus beau. Lorsque l'on pense aux témoignages de nos grands-parents, par exemple, qui nous parlent de la France rurale, il nous disait « Ah, c'était le bon temps », oubliant que c'était une période où l'espérance de vie était bien plus courte qu'aujourd'hui, oubliant que les femmes et les hommes qui travaillaient la terre sans la modernité finissaient leur vie usée. Quand on discute avec les habitants du Nord ou du Pas-de-Calais qui nous parlent de la société de la mine, ils disent « Ah, c'était le bon temps », oubliant que c'était aussi une époque marquée par le travail des enfants, la pénibilité du travail, la silicose. Et je crois que pour ce genre de moment, c'est un petit peu la même chose. Et on a peut-être quelquefois tendance, où on veut se cacher, que ce genre d'urbanisme, notamment ces dernières années, était accepté par des femmes et des hommes, souvent immigrés ou leurs enfants, qui se retrouvaient locataires de ce genre d'immeuble parce qu'ils n'avaient plus le choix, parce qu'ils étaient plus assignés à résidence que maître de leur vie pour pouvoir choisir le logement, le quartier et la ville qu'ils souhaitaient.
Alors on va parler de l'avenir parce qu'il faut maintenant regarder au-delà de cette démolition. Mais Gilles Poux, le maire de la Courneuve, nous a rejoint. Je dois dire que son arrivée était assez impressionnante parce qu'il vient du pas de tir. Il était encore avec un casque à la main et en train d'épousseter son costume. Donc vous étiez vraiment là, tout à côté de l'explosion, Gilles Poux.
Ben, j'étais, oui, un tout petit peu plus près que les spectateurs, puisque le pas de tir était situé dans le périmètre de sécurité. J'étais dans un endroit qui ne représentait aucun danger pour moi, mais aussi pour les gens qui m'ont accompagné. On n'a pas eu de chance, c'est que le vent a tourné du mauvais côté, c'est nous qui avons pris la poussière. Mais de notre côté, je suis content parce que la masse des spectateurs qui était beaucoup plus nombreuse de l'autre côté a été épargnée par le nuage de poussière.
Qu'est-ce que vous avez senti au moment où vous avez appuyé sur le bouton ?
Ben, la première chose, c'est la nécessité de bien se concentrer sur ce qu'il faut faire, puisqu'il faut appuyer sur deux boutons à la fois. Un pour charger le détonateur et l'autre ensuite, après dans le compte à rebours, celui qui est de la mise à feu. Donc il faut essayer de faire ça correctement pour ne pas gâcher le travail de tous ceux qui ont préparé le bâtiment. Ensuite, la première chose, c'est vraiment un certain trouble devant ce qui est quand même un monument en termes de dimension. De le voir un petit peu foudroyé comme ça aussi subitement, ça trouble légitimement. Et bon, on a la gorge qui se serre, quoi.
Alors, je vous disais qu'on allait parler de l'avenir, mais avant, je voudrais vous faire écouter encore quelques réactions, quelques propos que nous avions recueillis juste avant l'implosion. Et puis, j'aimerais que vous répondiez sans doute à un certain nombre d'interrogations, ce qui nous introduira bien sûr à parler de l'avenir. De ce quartier, de la Courneuve, et puis avec Claude Bartolone, le ministre de la Ville, plus généralement de la façon dont je crois qu'il faut aborder aussi cette question. Ces démolitions ponctuelles s'inscrivent dans une politique plus large de réflexion et de réfection de nos villes à la fois. Mais tout de suite, on écoute, on l'a entendu chanter tout à l'heure, on écoute Davis du groupe La Brigade.
Tu sais, il y a un truc, c'est que la Courneuve, dès que quelqu'un fait une demande de HLM, on lui proposait en priorité, on leur proposait ces endroits-là. Bon ben tu sais, ce qu'ils ont fait, c'était une grande zone ghetto qu'ils ont fait pour les gens qui avaient le moins de moyens possible. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu retrouves avec des gens qui n'ont pas du tout de moyens dans une seule zone, bon ben automatiquement, bon ben il y a tout ce qui va, il y a tout le négatif qui va avec. Que ce soit bien, je dirais oui et non, parce que bon, raser, pour les mettre où, bon, si ça change le quotidien des familles qui habitaient là après, ouais. Mais bon, si c'est pour les mettre là, pour les mettre dans une autre zone, bon, je pourrais dire mieux me prévenir que guérir. Ben, ils attendent vraiment que ça empire pour ensuite amputer carrément. Donc c'est pas la solution non plus. C'est comme pour tout, ça veut dire qu'un problème, tu l'enlèves là et tu vas le déplacer le problème, mais tu le résous pas. Donc casser la barre au noir, je te dirais peut-être oui, mais bon, j'aimerais bien voir ce qu'ils prévoient justement pour tous ceux qui habitaient ce bloc-là et puis le projet de réaménagement, tout ça. Ça, je suis sceptique, j'attends de voir, parce que beaucoup de promesses et très peu de concrétisation. Quoi.
Il y a une interrogation, monsieur le maire, qui revient assez souvent depuis ce matin. Elle concerne l'avenir et c'est surtout de se dire, est-ce que finalement on détruit quelque chose à un endroit, on a déplacé les gens, et donc en déplaçant les gens, on a déplacé le problème, mais on ne règle rien sur les conditions de vie, sur les conditions sociales dans lesquelles ces habitants vivent. Tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces interrogations ?
Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que les gens ont des choses devant les yeux. On a démoli Debussy en 1986. Depuis, on a reconstruit en lieu et place 450 logements. Il y a des rues qui n'existaient pas parce que les gens marchaient dans la boue qui ont été créées. Ce qui fait que ça donne, je crois, légitimement de la crédibilité à l'engagement de cette municipalité et au travail qui est fait avec opiniâtreté, ténacité depuis des années pour reconquérir la ville et permettre de la rendre, parce qu'elle sera à taille humaine, humaine. Ensuite, je crois que dans l'opération de relogement, bien sûr, on n'a pas réglé fondamentalement les problèmes de société que sont le chômage, la pauvreté. En même temps, il y a un travail d'une grande finesse, avec beaucoup, beaucoup de sensibilité qui a été mené. Avec, et de ce point de vue-là, je voudrais le souligner, une mobilisation de tous les acteurs sociaux. Et peut-être pour la première fois, il y a eu un véritable partenariat entre les services de la ville, les services du département, les services de la région, les services de l'État, pour prendre chaque situation individuelle et regarder quelles perspectives dans ce relogement il pouvait y avoir pour elle. Et moi, j'ai quand même des chiffres en tête. C'est que les gens qui ont été relogés, il y avait une grande partie d'entre eux qui ne payaient plus leur loyer, qui avaient perdu leurs droits parce que des démarches n'étaient plus faites. Et qui, dans ce cadre-là, on a réussi avec des dérogations au fonds social pour le fonds social du logement à épurer les dettes, à remettre les gens à avoir la possibilité d'avoir accès à des droits, les allocations logement, etc. Et ainsi de reprendre pied, c'est-à-dire de nouveau être en situation d'égalité avec les problématiques de la société. Et nombreux sont ceux qui ont pu, par cet intermédiaire, reprendre le paiement de leur loyer, y compris certains, puisqu'il y a eu un accompagnement d'insertion, ont pu retrouver de l'emploi dans le cheminement et dans le suivi social qui a été mis en place. Et je crois que déjà, des choses ont commencé concrètement à bouger, y compris parce que les gens habitent dans des lieux qui n'ont plus grand-chose à voir en termes de qualité avec ceux qui étaient devenus le lieu où ils habitaient, quoi. Donc il y a déjà des choses très concrètes. Bien évidemment, dans le prolongement maintenant, il faut que sur ces questions de l'école, de la formation, les grands pôles comme Roissy, la Plaine de France qui est en train de se développer, permettent d'offrir des possibilités, des perspectives de formation et d'emploi pour ces populations, parce que là, ça reste une question décisive. J'en terminerai par là, excusez-moi.
Non, vous n'en terminerez pas, je vais vous poser d'autres questions après, n'ayez pas peur.
Très concrètement quand même, le chômage à la Courneuve, alors que traditionnellement, nous étions toujours dans une situation négative par rapport aux tendances nationales. Quand le chômage augmentait, ça augmentait plus vite à la Courneuve. Quand ça baissait, ça ne baissait pas à la Courneuve. Sur l'année mars 2000, le chômage a baissé sur la ville de plus de 9%. C'est-à-dire au même niveau, même légèrement supérieur que les tendances nationales. Je crois que ça aussi, c'est le début de signe. Ça ne fait pas le compte, il faut être clair. Mais il y a un début de mouvement et qu'il nous faut maintenant encourager.
Nous sommes toujours sur 106.3 pour la fin de cette émission spéciale à l'occasion de la destruction de la barre Renoir aujourd'hui. 20 minutes déjà dans l'après Renoir. J'ai l'impression que ça passe beaucoup plus vite après qu'avant. Hein, cet événement qui était attendu, ça fait déjà 20 minutes maintenant que la barre a implosé. On a beaucoup parlé de situation sociale et de l'emploi avec le maire Gilles Poux, Claude Bartolone. Moi, j'ai envie d'avoir l'avis du ministre de la Ville sur cette question. On vous a plusieurs fois entendu dire depuis pratiquement que vous avez pris vos fonctions au ministère de la Ville que la clé de l'avenir des quartiers populaires, c'était l'activité économique, le retour de l'emploi et qu'il ne fallait pas que ces quartiers restent sur le bord de la route. Les chiffres que vient de donner le maire sont encourageants, indiqueraient qu'on va dans ce sens-là où il y a encore beaucoup à faire.
Il y a un frémissement, c'est indéniable. Mais il faut accélérer le mouvement, parce que trop souvent, dès que l'on franchit le périphérique, on tombe sur une société un petit peu différente et qui n'est pas à égalité de droits avec le reste de la société. Et je crois qu'il y a trop de jeunes en particulier, de femmes et d'hommes de ce département, qui ont encore le sentiment de ne pas être traités comme des habitants de nos villes, comme des citoyens à part entière. Je pense notamment à celles et ceux qui se voient rejetés du monde du travail en fonction de leur nom, de leur couleur de peau, du pays d'origine de leurs parents et du nom même de leur quartier. Parce que vous voyez, lorsqu'il y a deux jours, nous étions avec le maire de la Courneuve, avec les habitants de la tour qui vient du bâtiment qui vient de disparaître, un certain nombre d'entre eux le disaient avec force. Ils disaient « Il suffit que l'on dise qu'on habite Renoir pour voir notre CV aller directement à la poubelle. » Et je crois que c'est aussi cela. Moi, je veux casser la rumeur de nos quartiers, celle qui, quelquefois, amène un certain nombre de jeunes à dire « De toute façon, nous, on sait, on habite de l'autre côté du périphérique, on habite en Seine-Saint-Denis, on habite des quartiers populaires. Nous n'aurons jamais accès à l'emploi, nous n'aurons jamais accès à la vie normale. » Et c'est pour cela que depuis que je suis à ce poste, j'ai mobilisé à la fois les financements et les énergies pour que l'emploi et le développement de l'activité économique ne soient pas des mots interdits pour ces quartiers populaires. Et c'est pour cela aussi que ces opérations quelquefois de démolition peuvent permettre de dégager du foncier pour reconstruire du logement social, pour reconstruire d'autres formes de logement. Moi, je n'ai pas peur d'employer aussi le mot d'accession à la propriété. Je sais que Gilles Poux est dans le même état d'esprit que moi, mais aussi être capable de dégager du foncier pour accueillir de l'activité économique, pour accueillir différentes entreprises qui pourront aussi offrir de l'emploi aux habitants de ces quartiers populaires.
Gilles Poux, on a vu tout au long de cette matinée, aussi bien avec l'architecte Paul Chemetov qu'avec les gens qui travaillent au grand projet urbain, qu'on était dans des temps qui sont relativement courts par rapport à la ville, mais qui peuvent être relativement longs par rapport à des populations. On parlait de périodes de 10 à 15 ans. Quel message, pour terminer cette émission, vous avez envie de transmettre aux habitants et aux habitantes de la Courneuve, et je pense en particulier aux jeunes qui attendent les affiches. On en parlait ce matin, la Courneuve s'invente un autre avenir. On sait que ça prend du temps. Quel message vous auriez envie de leur adresser?
Moi, je crois qu'il faut avoir confiance. Et dans la période qui vient, surtout pas déléguer à qui que ce soit, y compris au maire de la Courneuve, l'avenir que chacun a envie de se construire. Parce que je crois que c'est justement dans cette capacité à mobiliser toutes les énergies, à ce que chacun puisse apporter sa contribution, intervenir, que nous serons en situation de résoudre les problèmes, et y compris de nous donner la force de dépasser les obstacles qui ne manqueront pas d'être sur la route. Et je crois que c'est un message de confiance et d'espoir que moi je voudrais donner, parce que les choses ont commencé à changer. Avant même que le Renoir soit démoli, il y a le Mail Maurice de Fontenay qui est pratiquement achevé. Et on l'a voulu comme ça parce que justement, on est vraiment dans une dynamique offensive, ambitieuse sur cette ville, parce que c'est un territoire qui, moi j'en suis convaincu, a de l'avenir, a d'énormes potentialités, et on commence à le sentir. Et si, ensemble, on s'y met, je crois que vraiment, il y a là la possibilité de créer les conditions que la vie se transforme et que des réponses aux problèmes structurants de l'école, de la formation, de l'emploi, des pouvoirs d'achat peuvent être apportées. Et en même temps, je crois qu'on est aussi dans une dynamique où, au quotidien, on va s'efforcer de créer les conditions de faire une marche après l'autre, mais en permanence de faire des marches sur lesquelles on puisse avancer, cheminer, et donc être en situation en permanence de poser des éléments de confiance et des éléments qui nourrissent une dynamique de reconquête urbaine, de reconquête sociale.
Merci monsieur le maire, monsieur le ministre. Quel message, toujours en pensant à ces jeunes de la Courneuve, ils ont été nombreux à s'exprimer, hein, et ce matin et après la démolition. Quel message pour préparer l'avenir?
Je voudrais très vite, mais je suis sûr que ce sera le cas, qu'à la Courneuve, après avoir senti le souffle de la dynamite, on sente le souffle de la dynamique. Et notamment pour ces jeunes, pour leur montrer que nous ne voulons pas les renvoyer à 10 ans. Certes, une ville, ça s'invente sur le long terme, mais sans sacrifier le court terme. Moi, je veux que chacun de ces jeunes et leurs parents se rendent compte jour après jour que l'emploi, de plus en plus, redevient une réalité pour cette ville comme ce département. Que nos quartiers populaires soient jour après jour traités comme des quartiers, comme les centres-villes, au niveau de la propreté, au niveau de l'éclairage, au niveau de la présence des services publics, au niveau de du commerce, au niveau de la culture. Je crois que c'est ça. Vous savez, bien souvent, les jeunes de la Seine-Saint-Denis, mais les jeunes de ces quartiers populaires me disent souvent, vous savez, surtout quand, dans un moment comme ça, il y a beaucoup de journalistes qui viennent les voir, ils disent, on a l'impression quelquefois d'être les habitants du zoo. On vient nous voir pour voir notre cadre de vie, nos codes et nos modes de vie. Moi, je veux que le plus rapidement possible, ils puissent se dire, et je répète ce que je disais tout à l'heure, quel que soit le pays d'origine des parents, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la consonance de leur nom, nous voulons pour chacune et chacun bâtir des villes où la vie existe dans tous les quartiers, où l'égalité des chances, eh bien, est un élément qui sert finalement de réflexion pour bâtir jour après jour les villes solidaires du XXIe siècle.
Merci Gilles Poux et merci Claude Bartolone d'avoir été avec nous tout de suite après cet événement pour finir cette émission que nous avons entamée ce matin à 11h. On aurait pu la démarrer plus tôt, mais je crois que c'était important que nous soyons là et que vous puissiez, si vous n'avez pas pu venir ici dans ce périmètre de sécurité ou à proximité, si vous n'avez pas pu voir tomber la barre Renoir, que vous puissiez être présent par l'intermédiaire de votre poste de radio. Merci au Centre médico-social de la Courneuve de nous avoir reçus et hébergés en direct sur 106.3. Merci à Fréquence Paris Pluriel qui nous a accueillis et que je vous invite à écouter, qui va reprendre le cours de ces émissions. Merci donc à Guy Dardel pour son hospitalité sur Fréquence Paris Pluriel et pour avoir accepté de décaler aujourd'hui la diffusion de son agenda quotidien. Vous le retrouverez dans quelques minutes à 13h30. Les reportages que vous avez entendus étaient signés Julie Védi, Nicolas Lambert, Antoine Chao. Julie Védi et Guy Dardel étaient en direct dans la ville ce matin pour vous faire vivre cet événement. Antoine Chao était aux manettes, il a réalisé cette émission. Merci donc à Fréquence Éphémère, à toute l'équipe de l'agence Anatome qui a aussi préparé ce direct, Benoît, Marie et Françoise notamment. Et puis merci à Marie Castillo qui a accueilli les invités et qui a dû, mais c'était bien compréhensible compte tenu des difficultés, souvent leur courir après et faire preuve de beaucoup de ténacité pour les conduire jusqu'à ce studio. On se quitte ici à la Courneuve, mais vous restez sur 106.3. On se quitte avec Gnawa Diffusion.
Oh, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour les dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon oreille.